L'écho prend le micro.
L'écho prend le micro. L'écho prend le micro.
L'écho prend le micro.
Le rendez-vous métier, emploi, insertion et formation sur Dynamo.
Cette émission est présentée à tour de rôle par
la maison familiale rurale,
emploi et compétences en Brenne,
la chambre de métier et de l'artisanat,
le club des entrepreneurs
et Initiative Brenne. Vous êtes bien dans l'écho prend le micro
sur Dynamo.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écho prend le micro animé aujourd'hui par Initiative Brenne et Frédéric Ribeiro qui est son fidèle serviteur à Initiative Brenne. Mais oui. Pour rappel aux auditeurs qui découvriraient l'écho prend le micro, c'est pas facile à dire le mardi quand on a faim, l'écho prend le micro. Alors, ça commence bien. Alors, l'émission hebdomadaire en direct le mardi de midi à 13h, en rediffusion le samedi midi. Vous pouvez le retrouver en podcast, il y a aussi un site, Radio Dynamo. Et puis, il est animé, cette émission est animée par quatre structures. Le Club des entrepreneurs de la Brenne, que vous avez entendu la semaine dernière. La CMA de l'Indre, que vous entendrez la semaine prochaine. Initiative Brenne, que vous êtes en train d'entendre. Et puis, la MFR de la Brenne, que vous entendrez bientôt. Ouais, normalement, vous avez tout suivi. Alors, vous savez qu'on s'attache à faire découvrir le tissu économique du territoire, les acteurs de l'emploi et de la formation, de l'insertion et de leurs actions, et mettre en avant les offres d'emploi, d'apprentissage, d'entreprises à reprendre, ainsi que des bonnes pratiques en lien avec la transition écologique, par exemple. C'est une très bonne pratique. Et aujourd'hui, nous recevons deux invités, puisque nous avons le plaisir de recevoir Suzy Porcher, chef d'entreprise qui a créé en avril 2025 l'entreprise Révèle Compétences. Bonjour Suzy.
Bonjour.
Et Jacques Caillot, chef d'entreprise Multicarte, mais aussi bénévole parrain d'Initiative Rennes, qui nous parlera un petit peu de ce que c'est que de ses actions de parrainage et éventuellement aussi de son parcours, bien entendu. Eh bien, bienvenue à tous les deux dans l'émission. Et l'on va commencer à discuter un petit peu avec Suzy, que l'on reçoit donc aujourd'hui avec plaisir. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qui est Suzy Porcher? D'où viens-tu et quel parcours avant d'avoir créé son entreprise?
Je suis en effet Suzy Porcher. Je suis fondatrice de Révèle Compétences. Je viens du Loir-et-Cher. Je me suis installée dans l'Indre à Neuilly-les-Bois en 2020. Je suis arrivée en même temps que le Covid. Ce n'était pas moi le Covid, je tiens à le préciser.
Ça commence vraiment très très bien cette émission.
Avant de créer mon activité, j'ai eu un parcours assez varié, puisque j'ai toujours été en contact avec l'humain. J'ai travaillé dans différentes structures en tant que téléconseillère. Après un burn-out, j'ai pris la décision de chercher quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Et je suis partie dans les domaines de la formation, de l'insertion, de l'orientation, tout ce qui est lié à trait aux ressources humaines. Et j'y ai travaillé depuis plus de 10 ans maintenant. Toutes ces expériences, en fait, m'ont permis vraiment de comprendre un peu plus le parcours des personnes et surtout de pouvoir les accompagner au mieux. Dans leur parcours.
Donc on peut dire quasiment qu'il y a eu deux moments clés. On pourrait dire qu'il y a eu la Covid. Quand même, je pense que ça a un impact pour toute personne qui vit une vie pas uniquement professionnelle, mais aussi la vie perso. Et puis le burn-out aussi, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le burn-out, en effet, ça a été vraiment un moment clé qui m'a obligée à prendre des décisions et à changer mes modes de fonctionnement. Le Covid qui a confirmer en fait le souhait aujourd'hui que j'ai de créer mon activité, parce que c'est quelque chose qui a cheminé, qui n'est pas arrivé du jour au lendemain.
Et qu'est-ce qui a particulièrement compté aujourd'hui dans ton expérience, dans ton parcours professionnel, ce qui t'anime le plus aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette entreprise si tu devais sélectionner vraiment? Je pense que je suis motivé par ça.
Le fait d'accompagner les gens, vraiment aller vers le sens. Pour moi, c'est important que les gens puissent sentir pourquoi ils font les choses et qu'ils se sentent vraiment animés par rapport à tout ça. Donc ça va être vraiment la chose qui est la plus essentielle pour moi. Et puis surtout éviter qu'ils s'épuisent à faire des choses qui ne leur correspondent pas, en fait.
Oui, c'est ça. C'est véritablement d'être en alliance avec un petit peu ses motivations profondes, quoi.
Oui, oui, tout à fait.
Et toi, qu'est-ce qui t'a donc donné envie de devenir entrepreneur? Est-ce que c'était un projet que tu avais en tête depuis longtemps ou petit à petit, c'est né comme ça?
Alors, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Mais je pense qu'au moment où c'était dans ma tête, c'était pas forcément quelque chose. Je me faisais pas forcément assez confiance pour créer mon activité. J'ai décidé de me former dans un premier temps pour avoir un cadre. pour faire les choses de la bonne façon. Hein. Et par la suite, en fait, j'ai été accompagnée par des structures, par des personnes qui m'ont aidée justement à prendre confiance et puis à oser me lancer et me dire maintenant, voilà, je me sens à ma place.
Ouais, c'est aussi l'envie justement de mener entre guillemets sa barque, de réfléchir sur son sur son expérience professionnelle, sur ses compétences, de les faire évoluer. Ce parcours-là de chef d'entreprise, il est motivant justement.
Ah oui, tout à fait. Et puis on peut pas se reposer sur ses lauriers en se disant bah voilà, ça fonctionnera toujours. Faut toujours anticiper les choses et continuer à se former pour voilà être toujours au mieux de ce qu'on peut faire et puis pouvoir s'adapter aux évolutions, etc. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est de se former régulièrement en fait.
Et donc cette période de formation, tu as donc entrepris de collecter et de renforcer des compétences. C'est passé par quoi? Comment as-tu justement compilé entre guillemets toutes ces compétences pour ce projet d'entreprise?
Dans un premier temps, j'ai beaucoup réfléchi sur mon projet parce que il a beaucoup évolué au fur et à mesure.
C'était le projet que tu as aujourd'hui est le même que celui que tu avais au départ, la même idée?
En partie. Alors, il y a le projet d'être consultant de bilan de compétences, ça m'a un peu toujours suivi. J'ai moi-même fait un bilan de compétences il y a maintenant très très longtemps. Et du coup, en fait, c'est quelque chose vraiment qui m'a... Ça a été une révélation pour moi. Ça m'a permis de découvrir le domaine, justement, de l'insertion, de la formation, quoi. Et surtout de l'orientation. C'est des compétences que j'ai pu acquérir au fur et à mesure dans mes expériences. Et le fait d'allier le côté accompagnement de l'humain, l'orientation, de pouvoir les voir dans leur regard, en fait, qu'il y a quelque chose qui s'allume quand ils comprennent le métier qu'ils veulent faire. En fait, tout était intérieur, mais moi, je suis là juste pour les aider à se poser de bonnes questions, quoi. Et en fait, tout ce cheminement en fait fait que aujourd'hui, c'est comment dire, c'est quelque chose voilà, qui m'anime et qui fait que j'ai choisi cette voie.
Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir justement acquérir ces compétences au niveau métier? Tu as suivi des formations particulières? Il a fallu reconstruire justement une formation quoi, dédiée vraiment à ça.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai commencé par un titre professionnel de conseillère en insertion professionnelle. J'ai exercé pendant quelques années une licence ressources humaines. J'ai de nouveau exercé également. Et du coup, une certification de consultante en bilan de compétences qui m'a permis vraiment d'acquérir les compétences nécessaires pour être consultante. Et derrière, je continue à me former sur tout ce qui est accompagnement au burn-out puisque c'est vraiment une de mes missions principales, on va dire.
Et ça, c'est des formations que tu as faites en tant qu'adulte?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'avais simplement un bac. Alors, simplement.
Voilà. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais après, je me suis mis à travailler pendant plus de 10 ans et en me disant, les études, c'est pas fait pour moi. Et en fait, une fois que j'ai trouvé ma voie, je me suis rendu compte qu'en fait, si, c'était essentiel et en fait, ça roulait.
Mais quand on voit justement les titres que tu as acquis, ça a pris combien de temps, en fait, au final?
Alors, si on compte vraiment uniquement le temps de formation, on va dire en 3 ans peut-être, mais il y a tellement eu d'étapes, enfin, c'était vraiment des étapes en fait. Moi, j'ai travaillé peut-être 5-6 ans derrière, j'ai enchaîné une formation, j'ai pas fait tout d'affilée. Donc
c'était une construction au long cours, quoi,
oui,
entre guillemets.
Tout à fait, pour atteindre mon objectif à la fin, oui.
Et tu avais réussi à mobiliser aussi justement des dispositifs d'aide ou autres pour pouvoir suivre ces formations?
Oui, tout à fait. J'ai eu cette chance. J'ai pu mobiliser différents dispositifs pour pouvoir être accompagnée. Et j'ai vraiment consolidé mon parcours en faisant 2 bilans de compétences qui m'a permis vraiment de valider le projet au fur et à mesure et de passer toutes ces étapes.
Et donc, à l'issue de la réception, entre guillemets, de ces titres, mais aussi justement des compétences acquises et des retours aussi qui a pu avoir des allers-retours visiblement sur du travail, tu disais aussi précédemment. Le projet d'entreprise, il est donc né dans le contexte un petit peu de la Covid et d'un burn-out, entre guillemets. C'est ça. Mais après, par la suite, tu pour se dire, allez, c'est parti, je crée mon entreprise. Comment ça s'est passé sur la période de préparation? Comment as-tu abordé cette idée-là? Je m'installe, il faut que je vais créer une activité toute seule, je vais être, entre guillemets, le principal moteur des démarches de commercial, le principal moteur des supports que je vais utiliser sur les rendez-vous et sur les suivis. En tout cas, comment ça s'est passé au départ justement sur je vais créer mon entreprise. Comment as-tu commencé à enclencher cette machine?
J'ai commencé par me poser les bonnes questions de savoir réellement ce que je voulais à l'intérieur de cette entreprise. Je voulais vraiment accompagner les personnes. Je voulais mettre ma patte en fait dans l'accompagnement. Je voulais pas simplement survoler les choses. C'était pour moi important de pouvoir approfondir les choses. Et donc du coup, j'ai fait des études de marché. J'ai vraiment fait des démarches. Je me suis fait accompagner par Initiative Brain également.
Entre autres.
Ouais. Entre autres, qui m'a aidée, on va dire, à cadrer les choses et à savoir ce dont j'avais besoin, à me former également, puisque même au sein d'Initiative Brain, j'ai pu suivre des formations sur la création d'entreprises. Et ça a vraiment pu me permettre de me sentir un peu plus à l'aise déjà avec mon projet, de savoir réellement les attendus et de me mettre des étapes, on va dire.
Et puis aussi la création d'un modèle économique qui correspond à ton projet, j'imagine.
Tout à fait, parce qu'au début, j'étais en tant que salarié. Et à côté de ça, je crée mon activité en même temps. Donc voilà, c'était important de pouvoir un peu allier les deux, d'avoir une certaine sécurité qui me permettait de lancer mon activité assez sereinement.
Et donc aujourd'hui, Révèle Compétences, résultat, tu as créé quel type d'activité? Que proposes-tu comme type d'accompagnement?
Alors au niveau de ma structure, en fait, je propose des bilans de compétences dans un premier temps. C'est la majorité de mon activité. Donc j'accompagne les personnes qui sont un peu perdues dans leur objectif de vie, qui savent pas forcément vers quel domaine aller ou qui veulent travailler sur une reconstruction, un nouveau projet. Des personnes des fois qui sont qui sont en burn-out et qui sont complètement perdues. Et moi, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner pour travailler là-dessus. Dans un deuxième temps, je travaille aussi sur des bilans scolaires, puisque l'objectif étant d'accompagner tout au long de la carrière et que quand on fait un mauvais choix dès le début de notre enfance, bah des fois ça contraint tout le reste. C'est ce qui m'est arrivé également. Donc voilà, je travaille les plus jeunes âges, donc à partir de 14 ans en fait. On travaille vraiment sur la partie scolarité et puis trouver du sens dans ce qu'ils font et pourquoi ils vont vers ces domaines, ce qui leur permet d'être plus à l'aise aussi sur les études. Et j'accompagne aussi sur des centres de formation, je fais des animations d'ateliers sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi.
Et si l'on revient sur le bilan de compétences, justement, on peut le déclencher à n'importe quel instant de sa vie professionnelle?
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, il n'y a pas de limite d'âge. En fait, moi, je travaille avec des 14 à 65 ans. Alors, 65 ans, souvent, on est plus sur le départ en retraite, mais il y a des personnes qui pourraient très bien avoir envie de continuer à travailler parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'arrêter. Donc, oui, tout à fait.
Et sur la mobilisation du bilan de compétences, donc ça passe concrètement par combien de rendez-vous? Comment ça se fait, ce bilan, en fait?
Alors, chaque consultant fait à sa façon. Moi, de mon côté, je suis partie du principe je pars sur 8 séances à peu près, à intervalle de 15 jours à chaque fois. Et je suis sur des séances de 2 à 3 heures. Je varie, bien sûr, en fonction des profils des personnes. Il y a des profils qui vont avoir besoin de plus de temps, d'autres qui vont avoir besoin de choses un peu plus rapides. Donc, en fait, j'adapte vraiment en fonction de la personne que j'ai en face.
Et ce bilan de compétences, après, donc ça exige aussi du travail de ton côté, mais aussi du travail peut-être de celui qui suit le bilan, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un bilan de compétences, nous, on travaille, on est là pour poser des questions, pour utiliser des outils, etc. Mais derrière, si la personne ne fait rien, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est magique non plus. Donc c'est important, en fait, que la personne s'investisse vraiment dans son bilan et qu'elle fasse en effet des démarches pour pouvoir faire avancer les choses.
Et généralement, tu vois des différences entre, évidemment, j'imagine, entre le début d'un bilan de compétences et la fin. Tu as eu déjà des premiers retours. Comment après ils articulent ça, justement, ce bilan de compétences dans leur vie future, vie professionnelle? Est-ce que on aurait quelques exemples un peu comme ça de qu'est-ce que ça a pu enclencher dans le parcours de certaines personnes?
Disons que la plupart du temps, c'est beaucoup plus de clarté déjà sur leurs attentes, sur leurs besoins. Et puis souvent des domaines, des choix qui sont révélés, en fait, des métiers qu'ils connaissent pas forcément ou voilà, qu'ils apprennent à connaître. Et après, c'est à eux d'aller faire les démarches, d'aller se renseigner, etc. Parce que voilà, c'est bien beau de mettre un nom sur un métier, mais si derrière ils font pas de démarches de leur côté, c'est pour aller plus loin, voir les formations qui sont nécessaires, etc. Ça va pas forcément avancer. Mais voilà, c'est des personnes qui sont plutôt dans l'ouverture en général et qui se projettent, en tout cas.
Ça peut faire peur, je trouve, moi, la notion de bilan de compétences. C'est quand même un moment où il faut se recentrer sur soi. C'est ça, et trouver ça. Donc, passer la porte d'un bilan de compétences, est-ce que c'est simple, en fait, généralement?
Alors, c'est pas forcément simple et en même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est une grosse remise en question. faut être en capacité de le faire. Moi, je pars du principe que le bilan de compétences, on peut pas le faire à tous les moments non plus. Quelqu'un, par exemple, qui est en burn-out et qui est encore dans la période où c'est compliqué pour lui de se projeter, c'est pas le moment. Donc, je peux accompagner sur d'autres choses, mais pas sur du bilan de compétences. Clairement, ça, c'est pas possible.
Donc, tu es en capacité aussi d'orienter la personne à dire non, c'est peut-être pas le moment ou autre, quoi.
Tout à fait. Puis de lui proposer d'autres alternatives, suivant les possibilités, suivant les besoins de la personne. Oui, tout à fait.
Et par exemple, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, des personnes que tu as pu accompagner, est-ce que tu as pu observer des changements? Est-ce que, au niveau personnel ou professionnel, il y a eu des changements majeurs à la suite de bilans de compétences que tu as pu réaliser?
Oui, des changements de métier, des personnes qui rentrent en formation, qui changent totalement de domaine, des personnes qui restent dans leur métier aussi, mais qui pour autant, en fait, ont changé peut-être leur mode de fonctionnement et qui sont un peu plus à l'écoute de ce qu'ils ont besoin aussi de leur côté pour éviter l'épuisement. Et puis, des personnes qui évoluent, puis des personnes qui restent aussi sur leur poste, mais au moins ils savent pourquoi ils le font. Ouais, ça change beaucoup de choses.
Ça peut changer beaucoup de choses de savoir pourquoi on est là et justement de se dire j'y suis bien.
Ouais. C'est ça, exactement.
En déployant vraiment tout son savoir-faire et son savoir-être, quoi, j'imagine. Et sur le bilan scolaire, donc ça, c'est des actions qui peuvent être menées plutôt au niveau de la population, justement, des étudiants, ou comment
alors,
ça se passe?
Oui, à partir de 14 ans, dès qu'un enfant se pose des questions sur son projet de vie, ou il doit faire des choix sur Parcoursup, des choses comme ça, ou des fois ça peut être quelque chose qui est un peu compliqué pour eux.
C'est des questions qui sont régulièrement évoquées et qui ont l'air un peu angoissantes, ouais, effectivement.
Oui, tous ces choix-là, des stages qu'on leur demande de faire alors qu'ils ne connaissent absolument pas les métiers. Donc souvent, ils le font beaucoup par défaut. Ils vont aller là où ils connaissent du monde, ou là où les parents connaissent du monde. Mais c'est pas forcément quelque chose qui les anime ou quoi que ce soit, et c'est pas ce qui va solutionner les choses. Donc du coup, je fais un travail en amont pour essayer justement de leur permettre de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qui peut les intéresser, etc. Et de pouvoir en fait les aiguiller au mieux sur les différents dispositifs, les différentes filières qui existent, et puis les aider à faire leur choix sur Parcoursup également, ça peut arriver.
Et donc ces deux dispositifs, comment ils s'enclenchent? Il faut venir te voir? Est-ce qu'il y a possibilité de le faire financer? Comment ça se passe en termes d'organisation? Est-ce qu'il faut prendre des disponibilités? C'est chronophage? Comment c'est? Ça se passe à quel...
Alors...
un petit peu largement.
Oui.
Comme ça,
ouais. Alors au niveau du bilan de compétences, oui, il faut prendre rendez-vous avec moi. Donc un premier rendez-vous qui est gratuit, puisque ça permet vraiment de déterminer déjà si le bilan de compétences est nécessaire ou pas, parce que certaines personnes vont venir me voir et en fait, c'est pas forcément leurs attentes, donc ça me permet aussi de pouvoir déterminer les besoins. Hein. Et suite à ça, en fait, on détermine ensemble un planning. Il faut que la personne soit quand même un minimum disponible dans sa tête et avoir un peu de temps, parce qu'il y a du travail personnel et des séances de 3 heures tous les 15 jours, il faut pouvoir les caler aussi.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Donc voilà, moi, ça me permet aussi de me rendre disponible. Alors, en semaine, c'est le mieux, mais j'essaye de me rendre disponible aussi un peu le soir jusqu'à 20 heures. Donc des fois, des personnes qui finissent à 17 heures, c'est quelque chose qui peut être quand même enclenché. Oui. Pour du bilan scolaire, on fait ça en général après l'école. Donc... il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps. Souvent, je suis sur des séances d'une heure pour les jeunes. C'est l'histoire de pas forcément les brusquer non plus tout au long.
Il faut déjà les tenir une heure.
C'est ça, exactement.
Ce qui est peut-être pas toujours évident, bien entendu, vu qu'ils ont aussi pas mal de choses à faire le soir.
Oui, oui, tout à fait.
Et autres, ouais. Et donc là, aujourd'hui, il existe aussi d'autres personnes qui vont proposer un petit peu ces accompagnements. Toi, par rapport à ce type d'accompagnement, comment tu l'as conçu? Qu'est-ce qui fait un petit peu la différence et le sel un peu de ta manière d'agir? Quelles sont un petit peu les particularités, spécificités de ta vision sur ce métier-là?
La première chose, c'est la proximité. Parce que moi, en fait, je me déplace vraiment au sein de la ville. En fait, je me déplace dans le département de l'Indre. Je vais sur Mézières, sur Le Blanc, sur Argenton, sur Châteauroux, Buzancé, Levroux. Enfin voilà, je me déplace vraiment pour aller au plus près des personnes, pour leur éviter des kilomètres. Ça, c'est la première chose. Le côté flexibilité aussi par rapport à des organismes souvent qui sont limités au niveau des horaires. Du coup, moi, je suis un peu plus flexible, ce qui me permet de travailler aussi, comme je disais, jusqu'à 20 heures. Alors, pas tous les jours non plus, mais voilà, des possibilités qui peuvent être...
On peut t'appeler à 20h.
Alors, bah oui, tout à fait. Bah, me contacter à 20h, oui. Au-delà, non. Oui. C'est ma limite. ça va être ça. Ça va être également, bah voilà, j'ai un gros travail sur le sens, c'est-à-dire que tous les bilans de compétences ne travaillent pas forcément de la même façon. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de déterminer la façon de fonctionner des personnes pour éviter... Enfin, je reviens là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment mon moteur. Hein, c'est éviter le burn-out, éviter tout ce qui est épuisement professionnel. Et du coup, je travaille vraiment en amont pour déceler les choses qui peuvent mettre à mal la personne et en fait la faire sombrer sur un burn-out, quoi.
Donc il existe aussi des outils qui sont utilisés par d'autres professionnels comme toi, mm-hmm. et qui ont fait entre guillemets leurs preuves, qui sont validés entre guillemets,
oui.
pour ce que ça peut amener, provoquer.
Tout à fait, c'est-à-dire que j'ai suivi une autre formation.
C'est quand même normé, c'est ce que je veux dire.
Oui,
c'est qu'on n'est pas sur un gourou, il y a des outils qui sont éprouvés, qualifiés et utilisés au sein d'entreprises ou avec des professionnels dans lesquels voilà, il y a consensus sur le fait qu'effectivement c'est des outils d'accompagnement.
Oui, tout à fait. Alors, ce sont pas des outils que je sors de mon chapeau, mais
bien sûr.
c'est vraiment des outils qui ont été créés, qui ont été reconnus. C'est des professionnels de santé, des psychologues qui ont créé souvent ces outils-là et qui me permettent de pouvoir travailler là-dessus. J'ai aussi des tests que je fais qui sont reconnus par des psychologues, etc. Voilà, c'est un travail. Oui, tout à fait. Il y a une reconnaissance.
Et sur le burn-out aussi, justement, ça permet de sortir de ces épisodes-là. Tu as pu rentrer en accompagnement avec d'autres professionnels de santé, peut-être, mm-hmm. éventuellement, non?
Tout à fait. Mais en fait, je ne peux pas travailler seule sur le sujet du burn-out. Et c'est aussi, d'ailleurs, mon projet de 2026-2027. C'est vraiment de développer un collectif, en fait, et de pouvoir avancer ensemble sur le sujet du burn-out, faire vraiment un accompagnement complet. Puisque, comme je le disais, je peux pas accompagner les personnes quand ils sont en situation de détresse, en burn-out.
Ah, oui.
Mais il n'y a pas forcément de professionnels, mis à part des psychologues, il n'y a pas forcément de professionnels qui accompagnent réellement sur le burn-out, sur ces périodes-là.
Dans l'Indre?
Il y en a dans d'autres départements, mais dans l'Indre, oui, c'est plus limité. Et je pense que c'est important, justement, qu'il y ait un accompagnement, que la personne ne soit pas laissée seule. Pour être passée par là, souvent, c'est les périodes, justement, où on se sent le plus seul. Et on ne sait pas comment ça va se passer. On est plein d'interrogations. On n'a personne à qui poser des questions. Donc, moi, c'est vraiment cette partie que je veux vraiment développer.
Et là, dans ce cas-là, ce sera en partenariat avec aussi d'autres professionnels du paramédical ou
tout
ou
à fait
quoi.
avec des thérapeutes, avec des professionnels, avec des conseillers en évolution professionnelle, enfin voilà, c'est vraiment au sens large. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir structurer une offre qui soit vraiment un cadre qui soit vraiment professionnel, quoi.
Et ça, c'est un projet que tu souhaiterais mettre en place là dans les mois, années qui viennent, quoi.
C'est exactement ça, oui.
Et puis, pour terminer, justement, pour toi, là, aujourd'hui, cette vie de chef d'entreprise, si on fait le point, entre guillemets, de cette nouvelle façon de voir la vie, est-ce que pour toi aussi, ça a été un changement majeur? Comment te sens-tu aujourd'hui en tant que chef d'entreprise à la barre de ce projet professionnel, justement?
Disons qu'au début, ça a été un peu compliqué, beaucoup de doutes. Parce que du coup, se lancer, c'est quelque chose qui fait peur. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Hein. J'ai eu la chance d'être accompagnée par toi.
J'étais pas là pour me faire mousser.
Non, mais voilà, je tenais à le dire. Hein. Ouais. Sur vraiment la mise en place de mon projet. Et également donc par Jacques qui est présent ici aussi sur le fait de pouvoir sécuriser un peu le début de mon entrée sur le monde de la création d'entreprise et du coup je me sens beaucoup plus confiante aujourd'hui. J'ai même pu arrêter mon activité de salarié et me lancer intégralement sur mon activité d'entrepreneur.
Parce qu'il y a aussi effectivement la question des revenus quand même.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Il s'agit de sécuriser son foyer en lançant une activité qui risque de prendre du temps, etc. Donc ça peut aussi faire peur, quoi.
C'est ça, exactement.
Et la découverte effectivement qu'on a un modèle économique à faire vivre et des choses comme ça, ouais. Donc aujourd'hui, plutôt contente d'avoir sauté le...
Oui, tout à fait, je me sens réellement à ma place.
Merci en tout cas pour ce témoignage, Suzy.
Merci.
Justement, là maintenant on va repartir en musique. avant de parler avec Jacques. Et tu nous avais sélectionné, je crois, un morceau d'un chanteur français pas très connu.
Oui, tout à fait. C'est, alors, j'ai choisi Jean-Jacques Goldman, donc qui est déjà un des quand même pilier, quelqu'un qui est plutôt reconnu pour le coup, mais bon, si tu ne le connais pas, je suis désolée.
Le morceau que tu avais choisi était...
Alors oui, c'est ta chance. En fait, c'est un morceau qui me parle beaucoup, et puis un chanteur qui me parle beaucoup également, puisque c'est quelqu'un qui, par le biais de toute sa bienveillance, sa gentillesse, a réussi à monter tout en haut, et du coup, voilà, c'est quelque chose que je prône aussi dans mes accompagnements.
Eh bien, on va l'écouter chanter alors.
Merci.
Toujours
L'écho prend le micro.
Et on est de retour à l'écho prend le micro, effectivement, avec Radio Dynamo. Aujourd'hui, c'est Jordan derrière les manettes. Salut Jordan.
Salut.
On précise quand même. Ouais. J'ai oublié quelque chose aussi, c'est Suzy. Je l'ai laissé terminer, mais comment on fait pour contacter Révèle Compétences?
Par magie. Non, je rigole. Vous pouvez me joindre au 06 08 92 61 17 ou vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux au nom de Révèle Compétences.
Révèle Compétences, R-E-V-A-I-L-E-S.
Compétences avec au pluriel. Oui, tout à fait.
Ça marche. Bon, j'ai pas oublié, je suis revenu. Et maintenant, je vais attaquer Jacques qui est juste en face de moi. Non, je vais pas l'attaquer puisque j'attaque jamais les invités, c'est pas le genre de la maison quand même. Donc Jacques, j'avais parlé un petit peu de toi au départ comme étant effectivement, et c'était l'occasion avec Suzy là de parler de ça, c'est-à-dire que tu es donc chef d'entreprise, arrivé aussi sur Saint-Gaultier déjà depuis 3-4 ans je pense à mon avis, pas
3 ans, oui.
3 ans, ouais. Et puis bénévole aussi à Initiative Rennes, donc c'était l'occasion aussi de faire un peu le focus comme ça sur des gens qui on est encore sur le domaine de l'accompagnement, donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, de faire un petit peu cette part belle aussi chez nous à Initiative Rennes, mais il existe aussi la même chose hein, sur d'autres associations qui font comme ça du travail auprès des entrepreneurs et qui accompagnent les entrepreneurs. Mais en tout cas, pour commencer, Jacques, est-ce que tu pourrais nous présenter qui est Jacques Caillot, quel est son parcours et puis comment tu as découvert la Brenne? Tiens.
Alors, on va commencer par le parcours et il est assez étonnant parce que on comprendra pourquoi avec Suzy ça a matché tout de suite. C'est que j'ai un parcours professionnel qui a été fait de plusieurs segments. Certains ont appelé ça de l'instabilité. Moi, j'appelle ça de la diversité, puisque j'ai démarré mon premier métier, c'était dans le bâtiment. Et du bâtiment, je suis passé à la mécanique, de la mécanique à l'électricité industrielle et à l'informatique, et ainsi de suite, en passant par les médias, par tout ce qui est production audiovisuelle. Et pour terminer une ligne droite, il y a maintenant plus de 20 ans, sur l'accompagnement des chefs d'entreprise, à des périodes un petit peu délicates, hein, qui sont parfois le mur, la création, comme Suzy, qui sont aussi ce qui arrive un petit peu en ce moment, les bouleversements de marché, et on a les automatismes pour le quotidien et pas pour ce genre d'événement qui arrive peut-être une fois dans la vie d'un entrepreneur.
Donc aujourd'hui par exemple tu travailles aussi en accompagnant des entreprises, c'est ça?
Complètement, ouais. Ouais, complètement. C'est en fait hein, sur les problèmes de stratégie et de gouvernance. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder, mais un bon projet ne l'est que parce que le porteur est bon aussi. Les deux sont indissociables, et si l'un des deux est bon et pas l'autre, le résultat sera mauvais. Donc oui, on accompagne la gouvernance, c'est hyper important, parce que quand c'est une personne, tout va bien, sauf multi-personnages, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a plusieurs associés, c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours des problèmes de divergences de point de vue, hein. C'est pas forcément des confrontations. Ce sont différences qui n'arrivent pas à se raccorder. Et quand on est dans un milieu qui, en fait, maîtrise votre rythme, c'est l'économie, là, faut aller vite.
Oui, donc là, c'est ce que tu fais aussi aujourd'hui, donc, toi, en tant que professionnel.
Complètement.
Et ça, tu le fais via une entreprise aussi, via des entreprises? Comment ça se passe, ce travail-là?
Oui, oui, j'ai une entreprise, qui se trouve sur Paris, qui est là pour porter l'activité. Hein. J'aurais pu faire ça tout seul aussi. Après, c'est des choix. Là, faut être clair. Hein. On fait des choix fiscaux. On fait des choix aussi parce qu'on a envie de faire un collectif, comme disait Suzy tout à l'heure. La structure, en fait, hein, bon, c'est un choix qui n'a rien à voir avec le métier.
Mmh. Et puis, ben, justement, alors comment tu as découvert la Brenne, alors après, par la suite, puisque tu disais que ton activité était plutôt centrée sur la région parisienne au départ, c'est là où tu as vécu la plus grande partie de ta longue existence.
Oui, alors t'es en train de dire je suis super vieux, merci. J'apprécie le compliment bien.
Non, mais c'était bien dit.
Bien fait. Oui, c'était pas. C'était, bien, c'était, j'apprécie.
C'était bien amené. C'était bien amené.
Donc oui, alors je suis arrivé en Brenne un petit peu comme j'ai fait le parcours de vie, hein, aller un petit peu partout. C'est qu'en fait je cherchais une maison. Et comme je suis un peu distrait, hein, notre rendez-vous d'aujourd'hui, je suis venu hier, bon, voilà, c'est un peu le résumé de ma vie. Je suis tombé sur une maison, j'ai eu un coup de cœur pour une maison un peu historique, et j'adore tout ce qui respire, l'histoire et tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller. J'ai pas fait gaffe à l'adresse, et en fait, c'était beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu, pas du tout dans la région où je cherchais. Et bah, j'ai craqué quand même, et voilà. Donc... c'est les fruits d'un hasard très maladroit.
Comme quoi, des fois, le hasard très maladroit fait bien les choses.
Eh, y a qu'à me voir. Hein.
Bah, tu es là aujourd'hui.
Et voilà.
Et puis, bah donc aussi, tu as découvert la Brenne. Tu connaissais peut-être déjà l'entrepreneuriat en milieu rural. Est-ce que par rapport à cet accompagnement chef d'entreprise, quand tu nous as parlé un peu de ce que tu fais toi dans ton métier. Au quotidien dans ton entreprise, et puis l'accompagnement dédié sur Initiative Brenne, il y a des différences avec le milieu rural? Est-ce qu'on retrouve quand même les mêmes problématiques? C'est pas un environnement embêtant par rapport à l'entreprise en milieu rural, sur des petites entreprises, etc., etc. Tu
alors,
vois ça comment?
Il y a deux aspects, hein, pour regarder le métier, on va dire, en milieu urbain et en milieu rural, si on veut les comparer. Le métier d'entrepreneur est le même. C'est de la gestion, c'est de l'étude de marché, c'est un positionnement produit, c'est savoir faire sa communication. Voilà, les règles sont les mêmes, les qualités à avoir sont les mêmes. Il n'y a aucune différence. La seule différence, en fait, qu'on peut avoir, c'est qu'on trouve pas les mêmes opportunités, je veux dire, en ville plutôt qu'à la campagne. Mais en soi, c'est pas grave. Ensuite, on parle souvent, oui, mais dans les grandes agglomérations, on trouve, il y a plein de clients. Et en fait, la nature est assez bien faite, hein. Les choses s'équilibrent. Donc, c'est pas le nombre de clients qui est important, c'est le ratio client-concurrent. Donc, si le ratio il est bon, à partir de là, on peut s'installer n'importe où. Si je prends l'exemple de Suzy, hein, ce que j'ai vraiment adoré dans son concept, c'est que, moi je rappelle, hein, puisque je rappelle, je suis d'un grand âge, merci Frédéric.
Non.
Ça y est, c'est marqué là. Et je me rappelle de ces camions épicerie en fait qui faisaient les tours de village et qui en fait rendaient bien service parce que en plus d'apporter un service, ils apportaient aussi des nouvelles des autres. Enfin voilà, c'est toute une ambiance. Et Suzy m'a rappelé ça. Je me suis dit, bah, elle a tout compris. Aujourd'hui, bon, bah, c'est vrai que c'est dur pour beaucoup de gens, pas forcément pour des raisons de mobilité physique, mais c'est parfois parce que ça coûte de se déplacer, parce que parfois il n'y a pas les transports en commun et autres, eh bien, fait l'effort d'y aller.
Ouais.
Et ça, pour moi, dans le milieu rural, c'est l'avenir. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte à son environnement. C'est pas l'inverse. Et elle le fait très bien.
Et puis, par rapport justement au parrainage, donc tu avais découvert aussi l'activité de parrainage. Par la suite. Aujourd'hui, bah, si toi, tu te fais parler du parrainage, entre guillemets, cette action de parrainage en bénévole, qu'est-ce que c'est comment tu conçois, toi, cette chose de parrain? Parce que là, c'est aussi, j'imagine, ton expérience en tant que chef d'entreprise et puis les expériences professionnelles que tu as accumulées qui te permettent aujourd'hui d'avoir une conception un peu de ce que c'est que le parrainage pour toi. Comment s'invente cette relation entre parrain et filleul?
Alors, pour répondre à la première question, pourquoi être parrain? En fait, il y a plusieurs raisons, hein, qui convergent vers le même point. Elles sont pas toutes les mêmes pour tout le monde, mais me concernant, je pense que, en fait, une part de notre existence est liée à notre part de partage et de transmission. Donc, c'est pour moi une base. Donc, ma richesse et mon avenir est fait par le partage et la transmission. Ensuite, il y a des rencontres. Bon, Suzy est une rencontre, par exemple. J'en ai rencontré d'autres, des gens qui vous inspirent. Vous avez envie d'être un petit quelque chose dans leur chemin. On n'attend rien en retour. Hein. C'est pas un deal. C'est un don, c'est gratuit, c'est une envie et c'est un résultat. Après, de façon plus pragmatique, hein, je crois que je vais vous dire à quelqu'un que concernant Initiative Brain, j'ai été accompagné par Initiative Brain à une époque hein, sur un projet et j'ai tellement trouvé le système sympa, enfin vraiment une collectivité d'esprit dans laquelle je me suis reconnu et je me suis dit ben à un moment donné on te donne, et c'est bien de rendre aussi. C'est ce qui fait que demain quelqu'un d'autre donnera à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Il y a une chaîne de valeur, hein, s'il manque un maillon, elle s'arrête. Donc voilà, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoive et c'est très bien. Après bon, est-ce qu'il y a des qualités d'expertise? Ben oui, il peut y en avoir, mais souvent un chef d'entreprise qui démarre, il a autant besoin de soutien moral que de soutien technique. Je pense que le comprendre, c'est la première chose, parce que les règles, comme tu l'as dit tout à l'heure, en ville, à la campagne, ainsi de suite, les règles peuvent être différentes selon ce que l'on fait. C'est plus les finances qui vont compter ou plus le savoir-faire. Enfin, il y a plein de choses qui sont différentes, mais il y a une chose qui est commune à chaque fois, c'est l'émotion, c'est l'être humain qu'il y a derrière avec ses forces, ses faiblesses, qu'il faut comprendre et pouvoir lui donner des directions en fonction de ce qu'il est et pas forcément en fonction de ce qu'il faut. Parfois, le lapin, c'est ça, hein, c'est pas forcément la ligne droite et qui le sauve le plus, hein.
Et c'est pouvoir aussi mettre ça en avant dans le parcours de que le chef d'entreprise ait bien conscience de cela et qu'il puisse l'utiliser comme une force, j'imagine. Ouais. Qu'il puisse mettre cette capacité justement. Il sait qu'en fait c'est une personne avant tout, quoi.
C'est ça.
Qu'il est motivé avant tout profondément par.
C'est ça. Ça commence par la motivation. Hein. Être parrain et être filleul, c'est une croyance de l'un en l'autre. S'il n'y a pas cette croyance, on n'y va pas. C'est pas possible.
Et pour toi, par exemple, qu'est-ce qu'il est important aussi de transmettre? Quels seraient un petit peu c'est un peu rapide et vite fait, mais c'est quoi le métier de chef d'entreprise pour toi aujourd'hui? Tu conçois ça comment? Tu dirais que quelles seraient les choses sur lesquelles toi tu penses qu'il est important d'aider, d'appuyer, d'accompagner
Alors, question, hein. Dans les besoins ou pour être chef d'entreprise?
Être chef d'entreprise, on va dire sur ouais.
Pour être chef d'entreprise, je pense qu'il y a s'il y a une qualité qui ressort souvent, en tous les cas de mon parcours, hein, c'est l'humilité. L'humilité, c'est conserver une ouverture d'esprit, et l'ouverture d'esprit, c'est savoir écouter. C'est pas forcément suivre. J'ai dit savoir écouter. Pour avoir l'esprit critique, il faut avoir plusieurs choses à entendre. Si on n'est pas humble, on n'entend pas. Donc on n'a pas l'esprit critique et là on est en danger. S'il y a bien un point qui ressort systématiquement, c'est ça.
Et cette écoute se traduit sur plein de domaines différents, j'imagine.
Mais complètement. Hein. Parfois, bon, bah, quelqu'un qui se lance, je dirais, dans la mécanique générale, par exemple. S'il est convaincu de son métier, oui, je fais bien les choses, et ainsi de suite, et tellement embarqué par ça qu'il devient certain de réussir, et il a raison, s'il est très bon, il a raison de penser comme ça, sauf que ça suffit pas. Ce sont pas les meilleurs produits qui réussissent le plus. On le sait, je vais pas citer de marque ou quoi, mais...
Oui.
On va se faire des ennemis, mais... Mais oui, la règle, c'est que c'est un ensemble de choses qui font que ça marche. On peut être bon quelque part, mais on a forcément nos faiblesses. Et le danger, c'est de pas les connaître.
Et il y a aussi cette attention à l'environnement, j'imagine. Je parle de l'environnement du marché, par exemple.
Ah ouais, le marché est compliqué en ce moment parce qu'on est on est dans une vélocité à laquelle l'esprit humain n'est pas prêt. Je sais même pas s'il en est apte, mais les choses vont très 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 vite. Et là où avant le temps faisait qu'on sortait un projet, aujourd'hui ce sont des courses de vitesse. Donc les produits en eux-mêmes se changent parce qu'on privilégie la sortie, la date de sortie, le délai, plutôt que le produit en lui-même.
Et ça, c'est une, pour toi, tu vois, ça a des avantages, des inconvénients? Tu qualifierais ça de...
J'ai pas de jugement, en fait. Si c'est avantage, inconvénient, il pleut, il fait soleil, qu'importe. On s'acclimate à la météo et il y a toujours du bon à prendre quelque part. Hein.
Ouais. Et toi, justement, dans cette relation de parrainage, l'idée, c'est aussi peut-être éventuellement de les aider à se construire sur ces compétences-là, j'imagine. Comment tu as pu toi retirer dans ta relation de parrainage ce genre de tout ce que tu nous expliques comme étant un peu moteur, entre guillemets, tu le retrouves au quotidien dans la relation de parrainage, tu apportes des réponses, entre guillemets, ou des focus, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on retire de...
C'est compliqué de répondre à ça, parce que, en réalité, on n'est pas dans un système de programme scolaire pédagogique.
C'est ça.
Où il y a des choses à dire, et on coche les cases. N'est-ce pas? Là, on a quelqu'un en face de nous qui présente des qualités que l'on voit, d'autres que l'on voit pas. Il a son dictionnaire, il a son histoire. Donc, la vérité, c'est que on les accompagne, on s'adapte à eux, ce qui est logique, parce qu'ils ont déjà un gros effort à faire par ailleurs. Et on espère que cet accompagnement génère les bonnes émotions. Ou les bonnes réflexions. C'est comme ça que ça fonctionne, en tous les cas, pour moi. C'est quand on dit à un enfant, touche pas ça, tu vas te brûler.
Il va toucher, forcément.
Vous préparez les pansements en disant ça. Hein.
Oui, bien sûr, évidemment.
Donc, voilà, ça demande du temps. C'est pour ça que les parrainages, c'est un véritable engagement. Hein, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est un véritable engagement. Quand on décide d'être parrain, on ne le fait pas pour occuper le temps. On le fait pas parce que ça donne une image. Enfin voilà, pour être très franc, hein. On le fait parce que on a vraiment plaisir quand quelqu'un qu'on accompagne réussit, quand quelqu'un qu'on accompagne passe d'un visage tendu à un sourire, quand quelqu'un qu'on accompagne commence à vous dire au revoir ou à vous voir de moins en moins, bah, c'est le top du top. C'est pour ça qu'on se bat en fait. C'est pas, voilà, je le redis, c'est pas pour remplir un planning. Il y a de quoi faire ailleurs.
Oui, puis après aussi, je pense que tu es attaché à cette autonomie des filleuls que tu accompagnes.
Ouais. Bien sûr. Lorsque vous donnez pas l'autonomie de quelqu'un, vous le colonisez. Donc, vous le rendez dépendant de vous, mais l'inverse est vrai aussi.
Parce que cette relation de dépendance vous va bien.
C'est malsain. En fait, un porteur de projet, il doit avoir son autonomie le plus vite possible. Bien évidemment, parce que ça veut dire que vous pouvez aussi passer à un autre porteur de projet qui a aussi besoin d'un coup de main. Donc, plus on va vite et plus on peut aider quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un tout, encore une fois. C'est pas un porteur de projet qu'on accompagne dans sa vie, c'est plusieurs.
Oui. Et toi, justement, là, sur les satisfactions que tu retires de cette relation avec les personnes, aujourd'hui, parce que tu le fais en tant que parrainage, quelle satisfaction on a, justement, aussi, soit tu en avais relevé une tout à l'heure, hein, c'est la capacité du sourire, de voir aussi la personne. T'as d'autres éléments comme ça, dans cette relation, justement, que tu établis avec eux, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant?
Ah, mais oui, les filleuls ont souvent l'impression qu'ils sont là, et que ça va que dans un sens.
Un peu comme si tu étais l'expert, docte.
Voilà. Et c'est pas ça, en fait. La réalité, c'est qu'il y a un véritable échange. C'est-à-dire que je leur apporte une richesse qui est mon expérience, qui est pas forcément, d'ailleurs, la vérité pure, hein. Il peut y avoir plein de vérités. Mais je leur apporte ce que je sais. Et ils m'apportent ce qu'ils savent. Et il y a des choses qu'ils savent que je ne sais pas. Donc, ma richesse aujourd'hui, je la dois aussi au nombre de personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai partagé. Donc ça, voilà, rien que ça, ça me suffit.
On est donc dans une relation d'échange, encore ce que tu disais.
Oui, oui, c'est ça.
Contre don, quoi.
C'est exactement ça.
Et donc aujourd'hui, tu en as plusieurs, hein, je crois, quelques parrainages là actuellement, avec des profils très différents.
Oui, oui, oui. Ouais. Ça, c'est le goût du défi. Oui, j'ai plusieurs parrainages en cours. Alors, c'est pas un parrainage... Pour ceux qui voudraient y venir, et vraiment, je serais ravi que ça donne l'envie à d'autres. C'est pas, on n'y passe pas un temps plein, c'est pas vrai. un parrainage, lorsque l'on sait où on va, on passe, allez, peut-être une heure par semaine, en tous les cas, avec Suzy, c'est le rythme qu'on s'était mis pendant 3-4 mois, une heure par semaine, et ça suffit. Quand c'est bien préparé et tout, et comme on est déjà plusieurs parrains, on peut partager entre nous nos méthodes. Si on peut parler aussi de nos projets à un autre qui dit bah tiens tu pourrais faire comme ça et ainsi de suite, ce qui fait qu'on optimise énormément notre temps en fait consacré à chaque filleul avec le même résultat. Et donc oui, d'en accompagner plusieurs, ben on s'enrichit, puis ça fait voyager et enfin l'esprit vraiment. Bon, j'ai quelqu'un qui est dans la métallerie, quelqu'un qui est graphiste, Suzy dans les RH, j'ai des propres projets dans le café. Bon, cette diversité, c'est une vraie richesse. Hein. Je le dis souvent, la différence, c'est notre richesse.
Et bien toi, justement, par rapport à tes projets personnels, est-ce que toi aussi, ça une... quels sont les tiens aujourd'hui? Parce qu'en fait, tu n'es pas si vieux que ça, puisque tu travailles encore.
C'est trop tard, monsieur.
T'en as encore pour quelques années, me semble-t-il. C'est là où il faudrait la vidéo, Jordan, tu vois.
Esclavagiste.
Et toi, par rapport à tes propres projets personnels, ça a aussi une incidence, j'imagine, cette relation de parrainage, ça vient rebondir un petit peu sur...
Oui, c'est un peu l'histoire de l'effet papillon, hein, tout étant lié, un mouvement quelque part en provoque un autre ailleurs. Donc oui, chaque filleul que vous rencontrez a un effet, lequel difficile à dire. Hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a une mauvaise utilisation de l'effet ou une bonne utilisation de l'effet. Donc il y a un effet, forcément. Après, est-ce que je fais quelque chose en attendant un effet? Non. Je pense que si on cherche, on trouve pas. Donc on rencontre, on vit et on fait avec ce qui arrive. Et la vraie richesse, c'est ça. Et quant à savoir ce que je veux faire dans l'avenir, si déjà j'arrive à continuer ce que je fais, j'y suis bien, donc parfait. Hein.
Ouais, c'est déjà pas mal.
En tous les cas, moi, ça me suffit.
Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage sur le parrainage.
Eh ben, merci.
Et merci d'être venu. Donc, on va écouter un morceau aussi que tu souhaitais diffuser. Donc, c'était quel morceau aujourd'hui que tu avais choisi?
C'est un morceau des Pink Floyd, Wish You Were. Alors, j'ai pas d'historique là-dessus en tant que tel. Hein. C'est la musique, c'est soit elle raconte une période de notre vie, soit elle raconte une émotion. Et me concernant, c'est plus une émotion. Je trouve que Pink Floyd, ils ont pas fait une musique pour rentrer dans des standards. Ils ont fait une musique comme ils ressentaient, comme ils vivaient leurs émotions, avec des hauts, des bas, un coup à gauche, un coup à droite. Et lorsque vous écoutez ce morceau, ben en fait, il vous balade partout dans un univers et vous quittez le sol. Et voilà, c'est magique.
Eh bien, on est parti pour l'entendre.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A
smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change?
L'écho prend le micro.
L'écho prend l'écho. Prend le micro.
L'écho prend le micro.
Le morceau est fini. Voilà. Oui, la minute info, pardon. Alors là, ouf, on est très en retard à l'écho prend le micro. Donc c'est la minute info. Vous la retrouvez chaque semaine, hein, dans laquelle on vous présente l'intégralité de l'actualité de nos différents partenaires. On va commencer par la Minute Info avec les offres d'emploi. Donc, à Vocalpin, un cher demandeur d'emploi, cette offre est pour vous. Donc, on a cette semaine un conseiller et maître de cérémonie funéraire qui est recherché par les pompes funèbres Gonin à Argenton-sur-Creuse. On a aussi un professeur de SVT et mathématiques à Logec, Sainte-Anne et Sainte-Thérèse. Donc là, c'est le collège et lycée du Blanc. On a aussi un éducateur éducatrice de jeunes enfants. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. Hein, c'est précisé sur l'annonce, bien entendu. Recherché par Aiguzon, Argenton, la Vallée de la Creuse, donc la communauté de communes. Aussi, Intérimnation à Châteauroux qui recherche des opérateurs de production. On a aussi, justement, dans le domaine de l'aide à domicile, Famille Rurale, qui recherche toujours, l'association d'Aiguzon, qui recherche des aides à domicile. C'est important, c'est ce qui permet aussi, justement, d'aider les personnes âgées qui sont disséminées sur le territoire. Ça, c'est un service essentiel. C'est pas pour toi, Jacques. Et là, c'est Suzy qui te regarde comme ça, donc c'est pas de ma faute. Oh, la vieille balle perdue. Bon, je suis désolé. Ça, c'est, voilà. Bon, s'il y avait la vidéo, Jordan... Enfin, des manutentionnaires sont recherchés sur une entreprise sur Concremier. Vous pouvez retrouver toutes ces offres sur le site de France Travail ou contacter Candice Jardin au 02 54 54 57 29. Sur les agendas, ben, on a des mois de février et mars qui sont assez chargés. Là, bah, sortez-le aussi. Alors aujourd'hui, si cet après-midi, vous pouvez faire un job dating immersion à Argenton-sur-Creuse, rue de la Grenouille, contactez Romain Callard à France Travail Argenton-sur-Creuse pour plus d'informations. Donc France Travail organise régulièrement des job dating sur différents endroits du territoire, en lien aussi avec les communautés de communes, ce qui vous permet d'aller rencontrer directement les employeurs. C'est des fois beaucoup plus pertinent qu'un CV envoyé. Voilà. Ça marche d'ailleurs souvent mieux. Le 10 février, il y a le nouvel apéro de la Rentelle. Donc, c'est des temps qui sont mis en place tout au long de l'année sur le parc naturel de la Brenne pour favoriser l'accueil des nouveaux arrivants et des nouveaux professionnels. Donc, il y a des acteurs du monde associatif, tels que Kaleidoscope, notamment à Destination Brenne, ainsi que des structures animatrices de l'éco prend le micro. On retrouve la MFR qui organise un espace convivial très simple pour favoriser la mise en réseau et l'accueil. Donc, le prochain apéro aura lieu à 18h30 au restaurant La Source à Saint-Denis. Et c'est donc le 10 février. Ça, c'est sympa. Vous pouvez rencontrer comme ça, effectivement, et découvrir tout le tissu économique et aussi associatif local, la vie et plein de services et plein de gens sympas. Ça permet de gagner du temps et de pas se sentir isolé lorsqu'on arrive sur un nouveau territoire. C'est pas toujours facile en milieu rural. Il faut aller dans l'endroit où il y a des gens qui veulent bien vous accueillir. Et ça, c'est un bon endroit. Le 13 février aussi, on parlait de mutations rapides. Eh bien, justement, des Carbon Lab, qui est donc un espace, là, sur le blanc, un espace de coworking aussi, et qui fait tout un travail sur la décarbonation accompagner les entreprises en processus de décarbonation. Mais aussi, effectivement, toutes les évolutions importantes qu'on a actuellement, là, sur le monde de l'entreprise. Ils vont proposer un forum sur les différents visages de l'IA, avec des conférences et puis des ateliers découvertes IA et entreprise. Donc ce sera le 12 et 13 février que vous pourrez retrouver ça auprès du Moulin de la Filature. Là, le Carbon Lab est situé sur le bord de la Creuse. Je vous conseille d'y aller. Donc c'est un espace hyper intéressant qui va organiser très régulièrement des conférences, mais aussi vous aider justement sur la décarbonation et les enjeux de décarbonation et de transition écologique pour les entreprises. Sur les formations, donc il y a une formation là qui est proposée pour l'animation. Là, c'est une formation générale BAFA avec une session qui est prévue du 14 au 20 février à Luret, qui est proposée par la Ligue de l'enseignement Centre-Val de Loire en partenariat avec la commune de Luret et puis la MFR de la Brenne et les communautés de communes. C'est pour qui ? C'est pour tous les jeunes dès 16 ans, hein, puisqu'on peut être dès 16 ans animateur et s'engager dans l'éducation populaire, acquérir les compétences professionnelles reconnues. Pour cela, vous pouvez contacter Marion Jolivet au 07 84 73 14 31, donc pour cette formation générale BAFA du 14 au 21 février. Nos partenaires de la CMA, qu'on en reçoit régulièrement ici hein, sur l'Éco prend le micro, ou même qui prennent le micro d'ailleurs, le 7 avril organise donc des créneaux sur la facturation électronique. Ça, c'est un enjeu important pour les chefs d'entreprise, puisque tout le monde va devoir se mettre à la facturation électronique. C'est fini les petits papiers, c'est fini les petits calepins, tout passe par ce contrôle et on retrouve ça. C'est une obligation, donc dès 2026 pour un grand nombre d'entreprises, en 2027 pour les micro-entreprises normalement. Il y a un créneau que la CMA propose de rencontrer avec un cabinet comptable qui intervient sur les obligations et le planning à respecter pour la mise en place de la facturation électronique. C'est des rendez-vous d'une heure qui sont proposés, gratuits, avec un conseiller CMA CVL, mais aussi avec effectivement un cabinet comptable. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 54 08 90. La CMA aussi organise des stages sur créer sa micro-entreprise. C'est des stages de 2 jours qui permettent d'appréhender ce mode entrepreneurial qui mélange un petit peu personne et entreprise. Donc c'est important de bien le maîtriser, bien le connaître. Et les prochains stages de micro, donc sur 2 jours, sont le 23 et le 24 février 2026, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, pour maîtriser tous les enjeux et le fonctionnement de la micro-entreprise. Et donc, il y a aussi des ateliers qui sont organisés, là, le prochain. C'est des petits ateliers d'information, donc c'est sur des formats plus courts, le 17 février. Enfin, la CMA aussi organise avec la CCI un point conjoncture économique. Donc là, c'est intéressant, c'est les chambres consulaires qui font un petit point sur la conjoncture économique sur le territoire de l'Indre. Voilà comment ça se passe. Il y aura certainement des points sur les artisans, les commerçants, où on en est aujourd'hui sur le territoire face à ces mutations aussi, ces enjeux. Et ce point de conjoncture économique est proposé le jeudi 12 février 2026 de 8h à 10h à la Chambre de commerce et l'industrie de l'Indre à Châteauroux, avec un accueil café et l'ouverture de cette conférence se fera avec les deux présidents de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est intéressant aussi d'y aller pour sentir un petit peu justement la vie économique du territoire. Et puis nous, on va proposer aussi à Initiative Brenne avec la Brainbox, qui est un partenaire intéressant, qu'on a reçu aussi régulièrement à la radio. La Brainbox, qui est donc aussi un espace de coworking, dans lequel on a aussi un France Travail et qui est animé vraiment par une équipe de qualité depuis de nombreuses années, vraiment moteur hein, sur, euh, sur les enjeux aussi du numérique, bah, la Brainbox va proposer effectivement une demi-matinée sur l'IA au service des entreprises, dans lequel on pourra justement identifier, cibler et puis aussi bah, peut-être après quelques pistes pour pouvoir utiliser des intelligences artificielles dédiées à la gestion d'entreprise, donc pour pouvoir gagner du temps sur certaines fonctions et savoir quoi utiliser. Et puis enfin, bah là, je fais un espèce de teasing, mais qui est important aussi à savoir, c'est que le 10, 11 et 12 avril 2026, il y a effectivement la MFR de la Brenne ainsi que le parc naturel de la Brenne qui propose de faire un tour de Brenne des agricultures. Donc ça, c'est intéressant de découvrir des exploitations entre 18 et 35 ans pour des personnes qui ont des questions, un projet ou une envie de s'installer en agriculture. Donc c'est une formation, c'est un espèce de tour de table comme ça des différents types d'exploitation, puisqu'il existe plein de modèles différents. Il y a un petit peu justement pour tout type de personnes dans l'agriculture, vous verrez qu'il y a plein de métiers, plein de manières d'appréhender ce métier-là de l'agriculture qui est aussi en pleine mutation. On a obligatoirement avec la transition écologique, mais aussi d'autres choses hein, qui rentrent en compte. En tout cas, si vous voulez découvrir ce métier, vous avez possibilité de faire comme ça un petit tour le 10, 11, 12 avril. Avec les 30 euros, on a possibilité effectivement de faire des visites, des échanges, des rencontres, de manger aussi, correctement. Parce que bon, quand même, chez les agriculteurs, si on y va, c'est pour bien manger, puisque c'est eux les spécialistes du bien manger. Mais il n'y a pas que ça, donc c'est vraiment tout ce travail de découverte du monde de l'agriculture. Et pour cela, vous pouvez contacter Alexandre Mario et Bertrand Colli au 06 03 98 85 17. Et je termine par les entreprises à reprendre. Là, je voulais faire un petit focus sur une entreprise, puisqu'il y a un restaurant sur Prissac. Il n'y a pas beaucoup de restaurants sur Prissac, donc normalement, si vous êtes intelligent, je n'ai pas le droit de les citer, mais vous êtes capable, si vous connaissez la Brenne et que vous êtes des fins gourmets, vous y avez forcément été sur Prissac. Voilà, en tout cas, ce restaurant est effectivement un fonds à vendre. Bah, c'est un beau restaurant qui bénéficie d'une belle notoriété. Sur les informations qui sont données sur le site Transentreprise, hein, qui permet aux personnes qui souhaitent céder leurs fonds pour une reprise, est indiqué un chiffre d'affaires aux alentours de 350 000 à 400 000 euros. Ce restaurant mobilise actuellement 3 à 5 effectifs. Il y a une clientèle locale et touristique qui est fidélisée, la décoration est soignée, il y a une cuisine équipée, aucun travaux à prévoir. Un loyer assez attractif, seulement 900 euros hors taxe par mois. C'est situé sur une zone de revitalisation rurale, c'est-à-dire que ça bénéficie d'exonérations au niveau des cotisations sociales, mais aussi notamment des impôts. C'est un projet parfait pour un couple de restaurateurs, un chef ambitieux qui souhaite se lancer avec un outil de travail performant, un fort potentiel de développement, et puis aussi bah, effectivement une notoriété déjà acquise. Le prix de vente du fonds est actuellement de 100 000 euros, donc à voir et à contacter. Si vous souhaitez plus d'informations, bah vous pouvez contacter le site. Vous pouvez retrouver cette entreprise sur le site Transentreprise ou bien contacter effectivement la Chambre des métiers et de l'artisanat ou la Chambre de commerce et d'industrie qui vous orienteront vers les cédants. Et puis après, bah, la dernière minute, oh allez, 13h10, j'ai 10 minutes de retard. Allez, Carnet Rose, c'est les entreprises qui s'installent sur le territoire. Et cette fois-ci, vous les avez peut-être vu s'installer sur le territoire. Ce sont deux assureurs, AXA Assurance, Jennifer Guerrière, et Abeille Assurance avec Sophie Jacquelin. Pour ne pas faire de jaloux, j'ai cité les deux, bien évidemment. Le métier de l'assurance est aussi se féminise beaucoup. Ça, c'est super chouette. On est effectivement sur beaucoup de métiers comme ça qui se féminisent. Et puis, bah, ces deux jeunes entrepreneurs sauront vous accompagner, effectivement, pour pouvoir garantir et sécuriser au mieux vos différents biens. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, il est 13h10, il va falloir s'en aller. Et pour s'en aller, j'avais choisi un morceau. Je voulais saluer comme ça la petite scène de Minneapolis et de Saint-Paul, dans lequel on a effectivement le vivier de la funk. Actuellement, ils sont peut-être un petit peu embêtés par tout ce qui se passe sur le territoire. Je pense qu'il faut les soutenir. Et cette petite musique-là que je leur envoie est un petit clin d'œil pour leur dire, les gars, il faut se débarrasser de la glace, effectivement, pour que revienne le printemps. On y va, on écoute.
C'était l'émission
L'écho prend le micro.
Le rendez-vous métier, emploi, insertion et formation sur Dynamo.